Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mardi politique. C'est le député Luc Chatel, ancien ministre, actuel conseiller politique de Nicolas Sarkozy chez les Républicains, qui nous accompagne ce soir sur RFI. Bonsoir Luc Chatel.
Bonsoir.
Bienvenue pour vous interroger. À mes côtés, Roselyne Fèvre de France 24 et Alain Auffray de Libération. Alors nous reviendrons dans la deuxième partie de l'émission sur la préparation des élections régionales, à droite des élections quelque peu perturbées, semble-t-il, par une autre compétition, celle des futures primaires. En un mot, peut-être pour commencer, Luc Chatel, est-ce qu'il faut protéger les régionales des primaires, comme le dit Nicolas Sarkozy ?
Oui, je pense qu'il faut prendre les échéances dans l'ordre.
C'est grave à ce point-là.
Non, c'est pas la question, c'est pas de savoir si c'est grave. La question, c'est savoir si c'est logique. Vous savez, nous sommes un parti encore fragile. Je rappelle qu'il y a un an, j'étais moi-même le secrétaire général. Nous étions en pleine convalescence. Nous avions failli exploser. Donc, il y a un long chemin qui a été parcouru depuis. Bien sûr, l'objectif, c'est 2017. Mais il faut prendre les échéances les unes après les autres. On a gagné les municipales, on a gagné les départementales. Nous devons gagner les régionales si nous travaillons bien. Et puis ensuite, on s'occupera de l'élection présidentielle.
Voilà, un parti encore fragile. On y reviendra en deuxième partie de l'émission. Pour commencer, l'actualité en cette rentrée, c'est bien sûr la dramatique crise des migrants, plus grave encore pour l'Europe, explique la chancelière Merkel, que la crise de l'euro en Grèce, après un temps de réticence, eh bien la France s'est en tout cas ralliée à Berlin. Et hier, le président Hollande a ouvert les portes à l'accueil des migrants.
Face à ces drames, face à cette situation, j'ai proposé avec la chancelière Angela Merkel un mécanisme permanent et obligatoire d'accueil des réfugiés. La Commission européenne propose ou va proposer de répartir 120 000 réfugiés sur les deux prochaines années, ce qui représentera pour la France 24 000 personnes. Nous le ferons. C'est une crise, elle est dramatique, elle est grave, elle peut être maîtrisée et elle le sera.
Voilà, le président Hollande hier à sa conférence de presse de rentrée. Cette crise, dit-il, peut être maîtrisée, elle le saura. Vous partagez, Luc Chatel, ce volontarisme ou bien encore cet optimisme ?
S'agit-il de volontarisme ? J'en doute. Moi, j'ai trouvé François Hollande fidèle à lui-même, c'est-à-dire sans hauteur de vue, ni hauteur ni ambition.
Sur cette question particulière
mais bien sûr,
de l'immigration.
Ni hauteur. Écoutez, cette question d'abord, c'est une question qui n'est pas franco-française, c'est une question que le monde partage, mais en particulier l'Europe. Quelle initiative François Hollande a-t-il prise depuis qu'il est président de la République pour avoir, au niveau européen, une politique migratoire commune, cohérente, efficace ? Aucune. Est-ce que, depuis le début de cette crise, François Hollande a pris des initiatives ? Il n'en a pas prises. Il navigue à vue. Il était pour les quotas. Les quotas. Bernard Cazeneuve avait évoqué le mot au mois de juin dernier. Puis, le gouvernement a fait marche arrière. Puis, il savait plus quoi faire. Et il a laissé la chancelière allemande proposer cette initiative. Alors, on prononce plus le mot de quota, mais en fait, ça revient au même.
C'est des quotas. Ça, c'est une bonne idée, les quotas, ou bien?
Mais l'idée qu'il y ait une démarche commune européenne face à cette question est nécessaire. Voilà. Alors, nécessaire au niveau global, c'est-à-dire en amont, d'abord, il faut une politique vis-à-vis des pays africains. Il faut une politique de contrôle des frontières, d'harmonisation de nos politiques. Aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça.
Vous voulez dire qu'on s'y est pris trop tard, en fait.
Mais bien sûr, on s'y est pris trop tard. Je vais vous dire, qui, en 2009, en 2008-2009, a porté une politique d'immigration au niveau européen ? Qui avait été tant critiqué à l'époque ? Nicolas Sarkozy. Je vous rappelle que c'est Brice Hortefeux, ministre de l'immigration, qui a fait adopter un pacte pour l'immigration lorsque nous présidions l'Union européenne. À l'époque, on nous expliquait que c'était pas le sujet, que c'était pas la question. Qui a proposé un Schengen 2, une nouvelle organisation, et qui a été tant critiqué à l'époque ? Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc, moi, ce que je constate, c'est que François Hollande, sur cette question, comme sur d'autres, n'a pas de vision globale. Il n'a pas d'initiative. Il est petit bras. Il subit l'activité. Alors que c'est un sujet majeur de ce début de 21e siècle.
Il subit une crise d'urgence. C'est-à-dire, les politiques que vous évoquez, par exemple, en évoquant Nicolas Sarkozy, c'est des politiques dont l'efficacité se mesure à long ou à moyen terme, hein, en direction de l'Afrique, etc. Là, il y a un afflux de réfugiés absolument inouï. Hein, c'est du jamais vu. Et d'ailleurs, dans votre famille politique, il y a des gens qui font peut-être moins de politique que d'autres, au sens un peu vulgaire du terme, comme Jean-Pierre Raffarin en ce moment, qui dit « le temps des quotas est venu ». Lui, il le dit, carrément.
Alors, ce qu'il faut bien expliquer à nos auditeurs, c'est que ce sujet est très compliqué et on mélange tout. Voilà. Ouais. Il y a un premier sujet que nous venons d'évoquer, qui est la question des migrants. La question de l'immigration, qui est un sujet régulier, qui est un problème majeur qui se pose dans le monde. Ce sont les rapports Nord-Sud, ça se pose de la même manière en Amérique, regardez les problèmes des États-Unis vis-à-vis du Mexique, qu'en Europe vis-à-vis de l'Afrique. Ça nécessite une politique coordonnée au niveau européen avec 10 initiatives, et la France doit prendre le leadership. Elle ne l'a pas fait, et entre nous, il y aurait peut-être moins de difficultés aujourd'hui si on avait continué à prendre des initiatives au niveau européen. Ça, c'est la question des migrants. Ensuite, il y a une situation d'urgence. Je ne dis pas qu'elle n'a rien à voir, mais elle est différente. La question d'urgence, c'est qu'aujourd'hui, il y a la guerre en Syrie, il y a la guerre en Irak, il y a la guerre en Libye, et que donc il y a un afflux de réfugiés qui sont des réfugiés de guerre. Alors, est-ce que la France doit, fidèle à sa tradition d'universalisme, doit prendre sa part et accueillir ses réfugiés? Certes, mais elle doit le faire à condition que ce soit provisoire, c'est-à-dire que ces réfugiés de guerre, ils ont vocation à, le moment venu, retourner dans leur pays. Et deuxièmement, elle doit le faire dans la mesure de ses possibilités. On ne peut pas imposer avec aujourd'hui la situation sociale qui existe dans notre pays, les problèmes d'identité, les problèmes d'intégration. On ne peut pas imposer des vagues nouvelles d'immigration sans que ça crée de graves problèmes. Voilà, donc, oui à la générosité, mais il faut une fermeté. Il faut que nous soyons capable d'avoir une réponse forte.
Alors, Roselyne Fèvre, quand vous parlez de vision, vous dites François Hollande n'a pas de vision. Quand Nicolas Sarkozy a décidé d'attaquer la Libye et de supprimer Muammar Kadhafi, est-ce que vous pensez qu'à l'époque, il avait une vision? Parce que on a vu qu'est né le chaos. S'il y a un hub terroriste aussi aujourd'hui dans cette région-là, c'est à cause de la guerre. Est-ce que là, il n'y a pas une responsabilité de l'ancien gouvernement à avoir créé en partie la situation qu'on a aujourd'hui?
Allons jusqu'au bout de votre réflexion.
Parce que ça n'a pas été suivi d'un processus politique après, comme ça a été fait au Mali, par exemple.
Très juste, très bonne remarque. Et la question est de se demander pourquoi il n'y a pas eu ce processus politique. Allons dans le détail. Pourquoi Nicolas Sarkozy a décidé, dans le cadre d'une coalition, d'intervenir en Libye? Parce que M. Kadhafi allait détruire Benghazi et 200 000, je dis bien 200 000 personnes. Eh bien oui, on ne pouvait pas rester indifférent à cela. Donc, il y a une coalition qui a répondu, qui a bloqué, qui a renversé le gouvernement à l'époque. Ensuite, il y avait une solution politique. Il y a eu des élections libres en Libye en 2012. Il y a eu un gouvernement qui a été nommé en 2012 en Libye. Mais il n'y a pas eu d'accompagnement de ce processus politique. Pourquoi? Parce que M. Hollande, à peine arrivé aux responsabilités,
C'est de la faute d'Hollande. Alors,
sur ce sujet comme sur d'autres, il n'avait qu'une seule envie. Il a oublié de se renier sur cette question. Mais il n'avait qu'une seule envie, c'est se démarquer de son prédécesseur. Alors que la Libye, à l'époque, aurait eu besoin d'un accompagnement politique. C'est-à-dire, c'est bien,
mais
c'est nécessaire parfois.
Il fallait peut-être l'anticiper,
Luc Chatel. Mais il avait anticipé, puisque, encore une fois, je vous le redis, nous avons fait en sorte qu'il y ait pu avoir des élections. Voilà. Alors maintenant, je vais plus loin. Il y a aujourd'hui un afflux majeur de réfugiés syriens. C'est pas Nicolas Sarkozy qui a été mettre le bazar en Syrie. Il y a un afflux de réfugiés irakiens. C'est pas Nicolas Sarkozy. Rappelez-vous, en 2002, nous avons été opposés. En 2005, nous avons été opposés. 2003, pardon. On va y arriver. Nous avons été opposés à l'intervention en Irak.
On va revenir d'ailleurs à l'accueil des migrants. Le gouvernement s'organise. C'est un sujet, on le voit, qui divise à droite. Vous allez avoir une rude journée le 16 septembre pour votre colloque sur l'immigration. On voit François Fillon et même Jean-François Copé parler du devoir sacré du droit d'asile d'un côté. Puis de l'autre, on voit le député François Baroin, qui est par ailleurs président de l'Association des maires de France, qui dit en tout cas, moi, pas dans ma ville, je parle à peine du maire de Rouen, qui dit, nous, on prendra que des chrétiens, car il se peut qu'il y ait des terroristes déguisés dans d'autres réfugiés, chez d'autres réfugiés qui pourraient venir, par exemple, de Syrie. Comment vous allez résoudre cette difficile équation? Parce que sur ce sujet-là, comme sur d'autres qu'on aura le temps d'aborder. Là, vous êtes en désaccord.
Un sujet qui divise aussi les Français.
Je comprends que ce soit votre rôle d'essayer d'enfoncer des coins, de trouver des contradictions.
On n'enfonce pas, c'est factuel, là.
Ouais. Non, je vais essayer de vous montrer, et d'ailleurs, je vais reprendre vos mots, vous montrer qu'il n'y a pas de contradiction sur le fond. Vous parlez du droit d'asile, le droit d'asile est sacré. Mais bien sûr que le droit d'asile est sacré. Mais le droit d'asile, ça n'a rien à voir avec ces réfugiés massifs qui sont là pour une cause d'une guerre qu'on espère ponctuelle. L'objectif, c'est pas d'accueillir tous les chrétiens d'Orient. L'objectif, c'est que ces chrétiens d'Orient vivent en paix. Et que donc, s'il faut les accueillir temporairement à un moment parce qu'ils sont menacés de mort dans leur pays, ok. Mais ensuite, l'objectif, c'est pas que tous les chrétiens d'Orient viennent en France. C'est que après, ils retournent.
Tout le monde est d'accord là-dessus.
Ah bah oui,
mais entre un baron qui dit pas dans ma ville, il y a un copé qui dit venez à Meaux, on va s'organiser.
Encore une fois,
quand même, c'est un peu le grand écart.
Droit d'asile, c'est sacré. Indiscutable, et nous partageons tous ce point de vue chez les Républicains. Concernant ces réfugiés, encore une fois, nous sommes tous d'accord pour dire, oui, la France, elle a des valeurs, et elle peut pas fermer la porte. Hein, le discours de Marine Le Pen est nauséabond sur le sujet. Elle peut pas fermer la porte. Simplement, il faut le faire dans la possibilité d'intégration de ces personnes. C'est inimaginable qu'on oblige dans des communes de faire venir des migrants, des réfugiés de guerre, qui n'auront pas d'accompagnement, qui seront en surnombre et qui ne seront pas pris en charge. Donc, si vous voulez, il faut se poser les questions avant, pas après.
Mais, Alain Onfray.
Donc, vous considérez, parce que vous dites ces vagues migratoires, ces migrants, ils n'ont pas vocation à rester, il y en a qu'on doit
accueillir. Les réfugiés de guerre.
Les réfugiés de guerre.
Ils n'ont pas vocation à rester.
Mais quand on écoute ce qui se dit en Allemagne, par exemple, le discours d'Angela Merkel, je sais que vous allez me dire que la situation allemande est très différente, mais enfin là, on parle d'un demi-million de personnes par an. Ah, oui, et elle dit, elle, aux Allemands, le pays est en train de changer. Notre pays et l'Europe va changer de visage. Autrement dit, sa responsable politique, c'est de dire que ce sont des migrations, des vraies migrations. C'est-à-dire que il faut les accueillir, il faut les intégrer, il faut et ça, il y a des gens dans votre famille politique qui le disent également. Copé, effectivement, Raffarin.
Nous sommes d'accord sur ce sujet. Mais Alain Onfray, excusez-moi, vous dites vous n'avez pas comparé, mais bien sûr que je vais comparer. Quelle est la situation de l'Allemagne? Quelle est la situation de la France? L'Allemagne perd 100 000 habitants par an. La France gagne 100 000 habitants par an. L'Allemagne est au plein emploi. Nous sommes à 10% de chômage, 25% chez les jeunes. L'Allemagne a un taux de croissance de 1,5 à 2%. On est à zéro de croissance. L'Allemagne est en excédent budgétaire. Nous sommes en déficit budgétaire de 4%. Mais voilà, c'est QFD. Je veux dire, c'est pas du tout le même sujet. C'est pas du tout la même situation. Donc que l'Allemagne ait une possibilité ponctuelle d'accueillir davantage de réfugiés, que même, j'allais dire, ça serve sa croissance démographique, sa croissance économique, comme nous l'avons fait à une certaine époque, dans les années 70, dans les années 60, dans les 70. Ensuite, nous avons été très généreux en matière d'immigration en France. Nous avons été généreux. Donc, qu'il y ait une situation différente, ponctuelle, c'est un fait. Mais aujourd'hui, c'est pas la situation de la France.
Alors, les 24 000, vous êtes d'accord pour les accueillir ?
Nous sommes d'accord sur, si vous voulez, la question des quotas, prendre sa part sur une démarche européenne, pourquoi pas ? Encore faut-il qu'il y ait des règles communes entre les différents pays. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout de règles communes d'accueil, il y a des disparités.
Alors, s'il faut en prendre concrètement, est-ce que ce n'est pas à vous, parti politique, vous dites concrètement comment on fait ? Est-ce que ce n'est pas à vous de vous creuser les méninges pour dire comment on fait pour la part qui nous est dévolue ? Puisque vous dites il faut prendre une part. Mais cette part, comment on fait concrètement?
Ensuite, si vous voulez, il y a une responsabilité des élus. Vous avez des communes, des élus, des endroits où il y a des places dans des centres d'accueil de réfugiés. Très bien, des maires se sont exprimés, vous l'avez rappelé, y compris des Républicains, en disant nous sommes prêts à accueillir des réfugiés. Tant mieux. Il y a d'autres endroits où il n'y a pas de place dans les centres administratifs, où il y a une situation locale qui peut être extrêmement tendue en matière d'intégration, en matière de chômage excessif, où ça peut créer de graves difficultés d'intégration. Eh bien, ce serait une folie que de forcer ces maires à accueillir ces réfugiés.
Le maire de Rouen qui dit « Nous, on prendra que des migrants chrétiens ». Vous condamnez ?
Écoutez, la situation des chrétiens d'Orient est dramatique. Nous avons alerté sur ce sujet depuis des mois. François Fillon apporte ce combat lui-même depuis des mois. Voilà, donc oui, il y a une situation particulière parce qu'ils sont persécutés. Maintenant, est-ce qu'il faut n'accueillir que les chrétiens ? La réponse est non. C'est pas ma façon de voir ce que c'est que la tradition d'accueil de la France.
Voilà, changement de stratégie sur la politique migratoire, changement également de stratégie sur la Syrie avec aujourd'hui les premiers vols des avions français au-dessus du pays avant sans doute de probables frappes contre Daesh. C'est ce qui a été annoncé hier par le président Hollande également. Est-ce que c'est une décision là que vous soutenez ?
Je vais vous dire, je n'ai pas très bien compris à quoi allaient servir ces vols de reconnaissance. Voilà, je suis quand même un peu surpris que aujourd'hui, avec les techniques qui existent, à la fois satellites, les drones, les avions de reconnaissance qui volent à 15 000 mètres, on n'ait pas des informations suffisamment précises pour pouvoir décider. Voilà. Donc ça, c'est un.
Vous savez comme moi que la France n'a pas beaucoup de drones. Hein.
Non, il y a que les drones américains au-dessus de la Syrie. Je le sais bien
d'avoir nos propres informations si éventuellement on veut aller bombarder les positions.
Je le sais bien puisque j'ai dans ma circonscription à Chaumont le régiment des drones de l'armée de terre.
Mais moi, est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie quand même de la part du gouvernement et de François Hollande quand il dit qu'il est hors de question de dialoguer avec Bachar el-Assad? Quand on survole un pays souverain...
Mais évidemment que c'est de l'hypocrisie.
Voilà, et qu'on va frapper, on a forcément un dialogue avec la Syrie, elle est dotée d'une défense anti-aérienne. Donc s'il y a deux avions qui se baladent, on est obligé de prévenir, oh, c'est des rafales, c'est pas... Voilà, donc est-ce qu'il y a une sorte d'hypocrisie là?
Non, mais bien sûr qu'il y a de l'hypocrisie, mais il y a surtout une maladresse, un manque de vision, un manque de cohérence. Qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient ? Il se passe que ce qui est arrivé en Irak en 2005 a mis le chaos dans toute cette région. Voilà, toute cette région. Les États-Unis, pour les régions qu'on connaît, se sont désengagés en matière de politique internationale du Moyen-Orient. Et au moment où l'Europe aurait pu prendre cette place, elle n'a pas pris d'initiative. Il n'y a pas eu de leadership. L'Europe aurait aujourd'hui besoin de parler d'une voix forte. On sait très bien que l'Allemagne, pour les raisons qu'on connaît, ne peut pas prendre ce leadership. C'est donc à la France de le faire. La France, excusez-moi, mais en 2008, en 2009, quand nous avons présidé l'Union européenne, l'Europe, elle était entendue. Quand il y a eu la crise en Géorgie, il y avait du leadership.
Luc Châtel, on a bien compris, c'était mieux avant, mais maintenant on a une situation, nous avions les rafales françaises survolent la Syrie, il y aura probablement des frappes, peut-être même dès cette nuit. Est-ce que vous soutiendrez cette intervention française en Syrie ?
Il y aura d'ailleurs un débat à l'Assemblée, vous serez interrogé.
Il y aura un débat à l'Assemblée. Ouais. D'abord, j'attends de voir la question qui nous sera posée. Quel type d'intervention ? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, la France devrait prendre l'initiative au niveau européen pour que l'Europe aille rencontrer ses partenaires, ses alliés, les différents alliés, les pays de la région qui veulent lutter contre Daesh,
aux Iraniens,
aux Russes, aux Iraniens, à l'Arabie Saoudite, aux États du Golfe. C'est-à-dire quand vous voyez que hier, l'Iran a fait des propositions pour aller lutter en Syrie contre Daesh, on ne peut pas rester, on ne peut pas rester les bras ballants face à ce type de proposition.
Et vous avez le sentiment qu'il faut également hiérarchiser les priorités. Raffarin disant, on ne peut pas rester dans le Nini, ni Bachar, ni Daesh. Pour vous, il y a des priorités. C'est Daesh en premier, Bachar en deuxième.
La priorité, c'est de prendre une initiative internationale qui nous permette de régler ce problème de Daesh. Écoutez, les Français ne comprennent pas qu'on ne puisse pas arrêter 30 000 personnes qui décapitent les gens, qui terrorisent tout le monde.
Les Américains n'y arrivent pas non plus. 3 000 frappes sur la Syrie.
Mais je veux dire, c'est pas qu'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils n'essayent pas. Si les Américains voulaient vraiment...
En Afghanistan, tout le monde s'est cassé les dents. Les Anglais,
c'était pas exactement la même situation.
Pourquoi n'y arrivent pas?
Est-ce que vous diriez, comme François Fillon, que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a fait alliance avec Staline contre Hitler et qu'on peut bien faire alliance avec Bachar contre Daesh?
Mais moi, je pense qu'à court terme, on aurait pu. Tu vois, il y a un moment où les ennemis de mes ennemis sont peuvent devenir mes amis. Donc oui, on aurait besoin. En tout cas, je trouve que cette ostracisation depuis 2 ans n'a pas fonctionné. Nous sommes dans l'échec aujourd'hui, l'échec le plus total. Ça ne marche pas. Donc il faut une solution alternative. Cette solution alternative, ça peut pas être juste des vols de repérage. Cette solution alternative, c'est une initiative européenne forte avec nos alliés de la région.
Voilà, c'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve juste après les infos pour parler cette fois des Républicains.
Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Véronique Rigolet.
Mardi politique, deuxième partie, toujours en compagnie du député Luc Châtel, ancien ministre, actuel conseiller politique de Nicolas Sarkozy, pour vous interroger. Alain Auffray de Libération, Roselyne Fèvre de France 24. On reste un instant sur la conférence de presse du président Hollande hier et son fameux mea culpa. La question lui a été reposée hier, mea culpa surprenant dans l'ouvrage de notre consoeur Françoise Fressoz, où le président eh bien disait regretter d'avoir renoncé à cette TVA sociale que souhaitait en son temps instaurer Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous diriez, Luc Châtel, que comme François Fillon, quand vous avez entendu ça, vous êtes tombé de l'armoire?
Bah, je suis tombé de l'armoire, mais surtout, je me suis posé la question, c'est bien, les regrets, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? C'est-à-dire, s'il regrette tant, pourquoi est-ce qu'il ne rétablit pas une TVA sociale qui, à mon avis, reste la bonne idée pour faire face aux problèmes de compétitivité de notre économie?
C'est ce qui a été la raison pour laquelle il a dû augmenter les impôts?
Non, je
pense... La suppression de la TVA sociale?
Écoutez, il faut demander à François Hollande pourquoi il a porté ce coup de matraquage fiscal. Je vais vous dire...
S'il avait maintenu la TVA sociale, est-ce qu'il aurait, à ce point, augmenté les impôts?
Mais si vous voulez, le problème de François Hollande, c'est qu'il a bloqué, asphyxié l'économie française, ce qui fait que vous n'avez pas les rentrées fiscales qui correspondent aux besoins. Ensuite, il réussit la prouesse à la fois d'augmenter les impôts comme jamais et de ne pas combler les déficits. Donc, c'est le tonneau des Danaïdes. Voilà. Il a repris à nos amis grecs cette image du tonneau des Danaïdes.
Alain Auffray.
Sur le code du travail, on a l'impression... C'est une hypothèse, mais que ce gouvernement s'apprête à faire ce que vous avez jamais osé faire, c'est-à-dire à le réformer de fond en comble. Vous en réjouissez?
C'est un peu différent, Alain Auffray, de ce que vous dites. C'est-à-dire que le gouvernement ne fait pas, le gouvernement dit beaucoup. C'est vrai que Manuel Valls parle beaucoup, le président de la République parle beaucoup, il se contredit souvent, mais ils agissent peu. Et prenons cet exemple. Voilà. Je veux dire, la réforme du code du travail, elle est mort-née. Pourquoi elle est mort-née? Parce que François Hollande et Manuel Valls ont expliqué déjà qu'on pouvait toucher à tout sauf à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de toucher au temps de travail, on n'a pas le droit de toucher au contrat de travail, on n'a pas le droit de toucher à la rémunération du travail. Donc si vous pouvez toucher à rien, si ce n'est des trois sujets les plus importants... Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez introduire comme flexibilité? Donc, ce sera une réformette. Mais je vais vous dire, avec quelle majorité vont-ils adopter cette réforme? C'est-à-dire, quand vous voyez que Manuel Valls, quand il parle de ce sujet, se fait siffler à l'université d'été de La Rochelle par ses propres amis, ça en dit long aujourd'hui sur la non-marge de manœuvre politique de ce gouvernement.
Voilà, qui nous donne la bonne transition avec une autre université d'été régionale cette fois. C'était celle de La Baule le week-end dernier, on le disait en début d'émission. La préparation des régionales à droite est quelque peu bousculée par la compétition interne des futures primaires de la droite et du centre. À la réunion de La Baule, Nicolas Sarkozy a tapé du poing sur la table, juré qu'il protégerait les régionales des primaires. Vous nous avez expliqué, Luc Châtel, que le parti était encore fragile. On a senti, nous, qu'était visé ses rivaux, Alain Juppé, François Fillon ou bien encore Bruno Le Maire. Pour l'image d'unité que le parti voulait en cette rentrée, c'était un peu raté, non?
Non, parce que je pense que cette photo, cette image était forte, et de montrer que il y avait
un ancien président. Personne n'y croit, votre photo.
Mais attendez, de deux choses l'une. Nous sommes un parti politique qui a vocation à présenter des idées et à sélectionner des candidats. C'est ça la vocation de la politique. C'est choisir des idées et des hommes et des femmes pour les incarner. Donc personne n'est dupe. C'est normal que chacun présente, propose ses idées et que le moment venu, les Français tranchent. Simplement, nous avons décidé d'organiser les choses. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on soit présent au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est pas complètement stupide, parce que j'ai quand même l'impression que nous risquons d'être la seule espérance possible pour les Français, si vous voulez. Quand vous voyez aujourd'hui la situation du pays, le rejet des socialistes, et quand vous voyez ce que propose le Front National, je dirais, il est clair que les Républicains doivent incarner demain la relève, le redressement de ce pays. Voilà, donc nous allons présenter un projet, puis ensuite il y aura un débat, on va l'organiser, les primaires sont actées, le principe est acté, nous sommes en train de travailler sur le contenu précis de l'organisation. Moi je pense que c'est une bonne chose. Voilà.
Alors, mais
on voit bien la stratégie de Nicolas Sarkozy. Il fait tout pour faire passer ceux qui prennent au sérieux la primaire, c'est-à-dire ceux qui y travaillent dès maintenant, en travaillant à des programmes, pour des diviseurs, des gens qui nuisent à l'unité. Il ne cesse de le dire, il l'a répété à la boule, il le dira sans doute à nouveau au Touquet. Or, vous, vous êtes bien placé pour savoir que la condition de l'unité de votre famille politique, c'est pas tant Nicolas Sarkozy, c'est justement l'accord sur la primaire. Et donc, d'une certaine manière, s'il voulait vraiment l'unité, eh ben, il arrêterait de stigmatiser les gens qui la prennent au sérieux et de dire d'eux que ce sont des diviseurs.
Non, j'ai pas le sentiment que Nicolas Sarkozy stigmatise ceux qui sont dans la primaire, participent à la primaire. Simplement, il rappelle l'essentiel. L'essentiel, c'est que, vous savez, nos électeurs sont traumatisés. Ils ont été traumatisés par ce qui s'est passé en 2012-2013. Donc, nous n'avons plus droit à l'erreur vis-à-vis d'eux. Le premier qui dégaine aujourd'hui, excusez-moi, il est mort. C'est-à-dire le premier qui commence à tirer contre son camp, à dire du mal de son voisin, de son petit copain.
Oui, préparer la primaire, c'est tirer contre son camp?
Non, je dis pas. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pas le sentiment que les coups soient partis. On a écouté
de la part de Nicolas Sarkozy, si à la boule, il a dit voilà, la primaire, c'est pas le moment. Mais, je veux protéger les régionales de la primaire.
Mais il a raison de dire c'est pas le moment. C'est novembre 2016 la primaire. D'ici là, il y a les élections régionales qui sont une étape très importante dans notre conquête. On a gagné les municipales, on a gagné les départementales, on a fait basculer le Sénat. Donc, il y a une dernière étape avant les présidentielles, qui sont les régionales. En plus, il y a des nouvelles régions qui seront un levier, peut-être, de croissance, d'expérimentation avant l'alternance en 2017. C'est très important. Donc, il faut que le parti soit tout mobilisé là-dessus. Il y a le projet. Parce que, oui, qu'on choisisse le casting, c'est bien. Mais, si vous voulez, l'important, c'est qu'on soit d'accord sur un corpus idéologique et qu'on le mette en œuvre, quoi qu'il arrive.
C'est un simple rappel à l'ordre de Nicolas Sarkozy.
Il est dans son
Juppé
rôle.
Et Fillon sont partis un peu vite en campagne pour les primaires.
Ils sont partis un peu vite de la réunion de la Baule, vous voulez dire?
Aussi.
Ils sont...
Parce que les militants
non,
ont...
Non, mais Nicolas Sarkozy est dans son rôle. Il est dans son rôle de chef de parti. Il s'est présenté
pas. Il
comme chef
pas,
de parti.
Parce qu'on sait qu'il sera candidat à cette primaire. Il aurait beau jeu de faire taire ses adversaires potentiels.
Non, je pense que c'est son rôle de faire en sorte que les Républicains soient la force d'alternance crédible, qu'elle redevienne crédible, qu'on ait un projet, que les Français nous fassent un peu plus confiance chaque jour davantage. Ouais. Il y a des campagnes d'adhésion, on gagne des élections, step by step, comme on dit en Haute-Marne.
Si vous preniez le pouls de la société française aujourd'hui, est-ce que vous diriez que pour gagner en 2017, il faut se recentrer comme le fait Alain Juppé, où il faut se droitiser, comme va le faire Nicolas Sarkozy?
Excusez-moi, mais je crois que c'est pas la question. Moi, je ne crois pas du tout à cette logique de positionnement à droite, au centre.
Ah
moi,
bon, je crois. Il n'y a pas de droitisation de la société.
Je crois que nous gagnerons, tout simplement, je veux dire, si nous répondons aux problèmes des Français. Voilà. Les Français sont excédés par ce petit jeu politicien, par l'incapacité du monde politique à répondre à leurs problèmes quotidiens. Voilà. Donc moi, je vais vous dire, je pense que le sujet numéro un en France, c'est la question de la santé économique du pays. La priorité, on peut ne pas être d'accord, d'autres pensent différemment chez les Républicains, moi je considère que la priorité en 2017, ça doit être le redressement économique du pays. Quand le pays ira mieux économiquement, il ira mieux dans sa tête. Nous perdons chaque année des parts de marché vis-à-vis de l'Allemagne, nous perdons des points de croissance, nous décrochons. C'est tout cela qu'il faut rattraper. Donc ça doit être notre priorité.
La droite, la gauche quand même a touché un sujet auquel la droite ne s'est pas attaquée, c'est les charges des entreprises et l'aide aux entreprises, vous ne l'avez pas.
Les charges sur les entreprises ont augmenté de 40 milliards depuis le début du mandat et on n'a pas encore le retour du crédit impôt compétitivité emploi. Donc c'est pas vrai. Regardez la comparaison.
Ce qui ne marche pas, c'est l'objectif. C'est-à-dire que les entreprises n'embauchent pas sous prétexte qu'il y a eu des baisses de charges.
Mais tous les jours, on rajoute vous avez les discours d'un côté et vous avez les actes de l'autre. Tous les jours, on rajoute des contraintes supplémentaires. Quand c'est pas la pénibilité, on trouve une nouvelle idée technico-administrative. Et le gouvernement n'est pas, je suis désolé, moi je regarde les faits, les actes, il n'est pas pro-business, comme disait le Premier ministre outre-Manche.
J'en reviens aux tensions dans ce parti encore fragile qu'est les Républicains.
Ça faisait longtemps.
C'est fou. C'est vous qui m'avez donné la formule, alors je l'utilise, comme on dit à Chaumont, en français. On nous avait dit que Nicolas Sarkozy allait tuer le match dès son retour. De fait, quand on regarde les derniers sondages, on voit qu'il fait quasiment jeu égal avec Juppé, mais surtout que c'est Marine Le Pen qui est donnée gagnante. Mais alors, quel que soit le cas de figure au premier tour, que s'est-il passé ?
Non mais il s'est rien passé. Moi, je, excusez-moi.
Ah bah,
non mais excusez-moi. Moi, je parle pas des sondages. Un an avant la primaire et 18 mois avant la. Jacques Delors aurait été élu. Édouard Balladur aurait été élu. Lionel Jospin aurait été élu.
Si Delors s'était présenté, on aurait peut-être pu en juger. Mais...
Raymond Barre aurait été élu. Voilà. Okay. Donc, si vous voulez.
Alors, question précise. Comment on ramène les fameuses madeleines, hein, comme les appelle Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire ces électeurs de droite qui sont passés au Front National, puisque visiblement le Front National ne pâtit pas véritablement de sa guerre politico-familiale.
Encore une fois, je vais insister, mais en répondant aux difficultés, aux problèmes des Français. Moi, je suis dans une région où le chômage a augmenté de 8% en un an. Je vais vous dire, aujourd'hui, les Français ne croient plus les responsables politiques sur la lutte contre le chômage. Ce gouvernement donne l'impression de se désintéresser. C'est un fiasco total. On a eu quand même pendant l'été un ministre de l'Emploi qui a été démissionnaire pendant 2 mois. Vous imaginez une entreprise qui perd 30% de son chiffre d'affaires?
Est-ce qu'on a tout essayé?
Et le directeur, non, et bien justement. Je réfute cette idée de résignation. Oui, on a tout essayé, sauf ce qui marche. En Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne. Je veux dire, regardez, 5% de chômage. Un taux incompressible, le plein emploi en Allemagne.
Alors qu'est-ce qui marche ? Dites-nous, on est impatients de savoir.
Ce qui marche, c'est simple, c'est plus de flexibilité, c'est-à-dire une liberté du temps de travail au niveau des entreprises, c'est des contrats de travail uniques, c'est une souplesse où on fait confiance aux entreprises, et non pas, j'entendais, aux branches. C'est ça qui marche. Ce qui marche, c'est un service de l'emploi qui ne soit pas uniquement public, mais qui ait aussi des outplaceurs qui soient du secteur privé. Ce qui marche, c'est qu'on fasse sauter ces seuils, plutôt que d'en parler pendant des mois pour ne rien faire, c'est qu'on fasse enfin sauter ces seuils. Ce qui marche, c'est une politique en faveur de l'apprentissage qui soit beaucoup plus audacieuse.
Vous avez trouvé
alors
ce qui
qu'on
marche.
A tué l'apprentissage. Voilà, oui, ce qui marche, bah oui, excusez-moi, mais l'Allemagne est au plein emploi.
Vous auriez pu trouver en 2007.
Vous avez raison. Ouais. Vous avez raison. Mais deux choses. Premièrement, on a juste eu la plus grave crise économique depuis 1927. Et puis deuxièmement, depuis 1929. Et deuxièmement...
Même le président Hollande l'a reconnu hier.
Oui, j'ai vu ça. Oui, comme quoi, on évolue. Le discours du Bourget est loin. Mais le fantôme du Bourget, M. Montebourg, ne va pas tarder à ressortir.
Il y a quelque chose qui est un petit peu surprenant. C'est que vous êtes de culture plutôt libérale.
C'est vrai.
Vous êtes plutôt humaniste. Et dans votre famille politique, il y a des gens comme... Juppé et surtout Fillon, qui ont beaucoup travaillé depuis 2 ans, qui ont développé des programmes, etc., qui, d'après ce que je vois, devraient plutôt aller tout à fait dans le sens de ce que vous souhaitez.
Mais tant mieux.
Et pourtant, on voit bien que vous avez déjà fait le choix de Nicolas Sarkozy. À quoi ça tient?
Attendez, moi d'abord, j'attends de voir les candidats. Voilà, j'ai déjà fait le choix. Moi, je vais attendre de voir qui est candidat à l'élection présidentielle. Oui, j'ai de l'amitié, de la proximité, de la sympathie, du respect pour Nicolas Sarkozy. Tout le monde le sait. Voilà, on va peut-être attendre un peu.
Mais vous réservez votre choix.
Pas en campagne. Mais je peux pas vous dire d'un côté, on va s'occuper des régionales, et puis vous expliquer que je vais démarrer la campagne présidentielle. Voilà, ce serait juste un tout petit peu incohérent. Voilà, donc moi je me réjouis si les idées, entre guillemets, je vais dire un gros mot, libérales, font leur chemin en France. Or, dans notre parti, vous savez, la droite française, elle a jamais été très libérale. Si elles font leur chemin, tant mieux. C'est-à-dire, si au moins ça avait pu servir à ça, ces périodes de crise, si on se rendait enfin à l'évidence de voir qu'il fallait moins d'État, qu'il fallait faire confiance aux acteurs économiques, qu'il fallait plus de liberté, qu'il fallait laisser les individus s'exprimer, se développer, innover, ah bah, tant mieux.
En finir avec Schengen, pour le libéral que vous êtes? La libre circulation, arrêtez ça. Ce que dit Sarkozy à longueur de journée, ça vous paraît bien?
Attendez, ne caricaturez pas. Sarkozy a jamais dit qu'il faut arrêter Schengen. Il a dit qu'il faut un Schengen 2. C'est pas du tout pareil. Bien sûr qu'il faut la libre circulation des capitaux, des personnes, des biens. Bien sûr qu'il la faut. Simplement, il faut la réorganiser et l'adapter à ce monde qui est en plein mouvement, qui est en plein changement. C'est tout. Donc c'est un Schengen 2 qu'il faut.
Une question, vous l'évoquiez tout à l'heure sur le futur programme des Républicains. Nicolas Sarkozy a dit après les régionales, on s'y attaque. Et ce programme qu'on va définir sur un socle d'idées de valeurs communes à droite devra engager le futur gagnant de la primaire. Ce que contestent par ailleurs notamment Alain Juppé et François Fillon. Depuis quand le programme d'un parti engagerait le candidat. Mais, ça s'est jamais vu, ça.
Mais si vous voulez, bah, écoutez, c'est quand même normal que dans un parti politique, on partage les quelques orientations stratégiques. Je vous disais tout à l'heure que le pays est au fond du trou, qu'on va avoir un redressement économique majeur qui est indispensable. Si on n'est pas d'accord pour se mettre d'accord sur les 5 ou 10... Vous savez, il n'y a pas 250 mesures à prendre. Il y a 5 ou 6 mesures très fortes. Voilà. Ben, si on pouvait déjà se mettre d'accord sur ces mesures-là, ce serait, à mon avis, de bon augure pour la préparation de cette primaire.
On en reparlera en janvier. On ouvre la dernière séquence de Mardi Politique. Question courte, réponse courte. Je vous pose la première. Est-ce que vous pourriez accueillir une famille de réfugiés dans votre maison de campagne, Luc Châtel?
Je n'ai pas de maison de campagne, donc ce me sera difficile d'accueillir
des réfugiés. C'est une réponse qui est assez commune chez les politiques, maintenant. Ils n'ont plus de maison de campagne.
Voilà. Donc non, mais si vous voulez, à la limite, ma situation importe peu. Je pense que la réponse... je fais trop long, déjà?
Non, mais voilà. Vous n'avez pas de maison de campagne. Donc,
voilà,
vous,
de maison campagne.
Vous allez en accueillir chez vous, à Paris?
Non, je ne vais pas en accueillir chez moi, à Paris.
Non plus.
Vous avez beaucoup, vous avez habillé François Hollande pour l'hiver dans cette émission. Que reconnaissez-vous comme qualité au président de la République? Vous êtes obligé d'en
son humour.
C'est vrai, vous l'appréciez.
Je trouve que c'est quelqu'un qui a de l'humour et c'est partagé par un certain nombre. Moi, j'aime bien les gens qui ont de l'humour.
Alain,
une question un petit peu politicienne. Vous avez été aux côtés de Nicolas Sarkozy donc quand il a créé ce nouveau parti qui s'appelle Les Républicains. Et vous avez bataillé, comme lui d'ailleurs, pour que ne s'installe pas un sigle. Or, visiblement, LR, si vous êtes député LR et ça s'est installé, vous le regrettez?
Je le regrette parce que j'avais alerté ceux qui ont réalisé ce logo, notamment, en leur disant la question c'est comment on va nous appeler. Parce que Républicain, c'est trop long. Donc, ce sera quoi l'abréviation? J'aurais dit LR, ça va être affreux. On y arrive. Donc, quand même, de temps en temps, on voit marquer REP. Voilà, ça me plaît un peu mieux, REP, que LR.
Troisième fait. Quel est votre rêve insensé?
Mon rêve insensé, c'est avoir un vignoble dans le sud de la France. Mm-hmm. Voilà, et m'occuper de mon vin. J'adore le vin, j'adore le midi, et voilà.
Plutôt rosé, là?
Non, il y a du très bon rouge. Bandol, Côte de Provence, Côte d'Aix.
C'est rosé.
On a beaucoup parlé de questions municipales tout à l'heure à propos des réfugiés. Vous regrettez pas de ne plus être maire?
Il faut pas vivre dans les regrets. Je l'ai fait parce que le mandat de maire est le plus beau mandat qui soit. On me l'avait dit et je l'ai constaté. Pourquoi? Parce qu'on est à la fois bâtisseur, on est dans la proximité. Et on peut encore faire des choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, la politique, il y a beaucoup de mandats, on a du mal à bousculer, à faire, à agir. Maire, on peut encore faire des choses. Et puis, il y a cette proximité avec les habitants qui est fantastique. Moi, j'ai fait ce choix pour des raisons très personnelles, de disponibilité, je ne le regrette donc pas, mais c'était un grand moment.
Qu'est-ce qui vous a le plus manqué pendant ces 3 années d'opposition?
La petite boule du matin quand on part travailler, l'espèce de... Vous savez, moi, je viens du monde de l'entreprise. Et on m'avait appris dans un grand groupe industriel quelque chose qui s'appelait la saine inquiétude. C'est-à-dire, on se lève le matin en se disant « Qu'est-ce que j'ai oublié ?» Le clignotant qui était vert, mais qui pourrait s'allumer à l'orange. Quand on est ministre, on a ça tous les matins. C'est assez stimulant.
Vous avez été élevé chez les jésuites. Que vous reste-t-il de jésuites?
Ma façon de dire les choses à certains et peut-être d'être capable de parler à tout le monde avec ma façon.
Un référent historique, Mitterrand avait Machiavel, Mélenchon, Robespierre, et vous?
Benjamin Constant.
Beau personnage.
Dans l'organigramme du parti, vous êtes peut-être vous
conseiller politique. Je n'ai pas regardé le nombre de centimètres qui me sépare de Nathalie Kosciusko-Morizet.
C'était ma question.
Là, ça joue en centimètres.
On passe de Benjamin Constant à...
C'est la fin de
l'organigramme
politique réalisé par Mathias Golshani. Merci Luc Châtel d'être passé par RFI. Merci à nos partenaires. France 24, Libération, Roselyne Fèvre, Alain Onfray, rendez-vous à tous la semaine prochaine.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.